Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique.
Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité.
Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer.
Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Boxon Créatif, l'émission qui vient chatouiller la créativité, là où c'est sensible, à base de chaos et de réflexions contre-intuitives, pour mettre à mal le statu quo et ouvrir des petites boîtes de Pandore. Après avoir fait le premier pas, dans notre précédent épisode intitulé « L'appel de l'aventure », il est temps de prendre la route. Seulement voilà, laquelle ? Parfois, on ne sait tout simplement pas très bien où on veut aller.
Troisième couplet.
Oh non, 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 je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre.
Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre.
Oh, ça n'a guère d'importance, l'essentiel est...
Alors, il est inutile de vous tourmenter. Un chemin, volons.
Tu ne manqueras pas d'arriver quelque part, si tu marches assez longtemps.
Voilà ce que répond le chat du Cheshire à notre héroïne cherchant son chemin dans Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Une réponse bien déconcertante, mais qui pourrait aussi sonner comme un véritable encouragement en y regardant de plus près. On pourrait voir ça comme une métaphore sur la nature du voyage intérieur, l'idée que progresser sur notre quête créative, sans certitude, peut toujours conduire à une destination, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui nous pousse justement à avoir des certitudes ? Pourquoi ces certitudes sont-elles réconfortantes ? Pourquoi elles nous cachent aussi la réalité ? Pourquoi cette réalité vient chatouiller nos systèmes de croyances et nous pousse à réévaluer nos motivations et nos objectifs ? Et pourquoi, même quand on ne sait pas très bien où on va, on peut toujours arriver quelque part ? Dans ce nouvel épisode Boxon Créatif, je vous propose de semer le doute dans vos propres certitudes et de vous mettre à la place d'Alice au Pays des Merveilles. Dans un monde où la créativité est dominée par les tendances, les réseaux sociaux et les algorithmes, où les règles changent constamment, il nous arrive parfois, comme Alice, de nous sentir à l'étroit, ou de ressentir un grand vide et de devoir réévaluer notre perception des choses. Pour partir à l'aventure, il faut quitter la citadelle des certitudes, et c'est pas facile, parce qu'elle offre le confort et la sécurité. Elle nous tient à l'écart du danger, mais aussi à l'écart des aventures. Nous évitons ainsi les émotions étranges et désagréables, comme la peur, l'incertitude et les doutes, ou encore le jugement et la désapprobation. C'est super pratique, toi-même tu sais, mais en vrai, la citadelle nous offre l'illusion du contrôle. Nous pensons que tant que nous sommes dans la zone de confort de ces murs d'enceinte, nous répondons à ce que les autres attendent de nous. Comme tout le monde en fait, dans sa propre citadelle. Et en faisant ainsi, nous limitons nous-mêmes notre horizon créatif, notre propre épanouissement. Tout un monde nous attend pourtant à l'extérieur. Et autant d'aventures palpitantes. Alors qu'est-ce qu'on attend pour quitter la citadelle et suivre le lapin blanc ? Une chose qui me fascine dans Alice au Pays des Merveilles, c'est la nature de l'absurdité qui rend parfois plus absurde la réalité que l'absurdité elle-même. Bon, j'espère avoir perdu personne ici. Mais en même temps, si vous marchez suffisamment longtemps, vous allez finir par arriver quelque part, n'est-ce pas ? On a toutes et tous une citadelle des certitudes, unique et singulière. Elle est construite sur nos croyances. Ma citadelle a beau avoir l'air chaotique, étrange, rebelle et biscornue, et ressembler vachement à l'atelier du chapelier fou, bah ça n'en reste pas moins un bastion qui protège mes certitudes de toute remise en question venant de l'extérieur. Pourtant, on aime toutes et tous partir à l'aventure, même si ça fait un peu peur. Bah c'est parce que l'appel de l'aventure nourrit notre créativité. Et cette recherche d'un confort, bien que contre-intuitive, est tout sauf absurde.
Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
C'est une maxime que vous connaissez sans doute, attribuée par le philosophe Platon à son maître à penser Socrate. Autrement dit, la certitude de douter. S'encourager à remettre en question les certitudes et à reconnaître les limites de notre compréhension. Une sorte de méthodologie du doute, en fin de compte. Et ce que Socrate invite à explorer, c'est l'ouverture à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Pourquoi je vous parle de tout ça au juste ? Eh bien, c'est parce que j'ai le sentiment que la créativité se nourrit de la remise en question des systèmes de croyances. Autrement dit, que notre créativité s'épanouit vraiment dans ce qui nous est inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'une croyance ? Pour faire simple, on peut dire qu'une croyance est une conviction subjective selon laquelle quelque chose est vrai, réel ou valide, même si on n'en a pas la certitude absolue. Par nature, une croyance est relativement imperméable au changement. En outre, une croyance peut être porteuse ou limitante. Par extension, un système de croyances est un ensemble interconnecté de croyances qui façonne la manière dont une personne perçoit et interagit avec le monde qui l'entoure. Et c'est pas facile à déconstruire.
Est-ce que c'est mauvais d'avoir des certitudes ?
Pas nécessairement. Elles sont indispensables à notre équilibre et notre place dans le monde. En revanche, elles deviennent nocives lorsqu'elles prennent toute la place dans notre mode de pensée. Alors la question à 1000 balles que vous avez sûrement en tête.
Qu'est-ce qui distingue une certitude d'une conviction ?
On pourrait l'envisager comme suit, sous forme de posture distincte. Une certitude est une croyance figée, donc une posture statique. Une conviction est une croyance évolutive, donc une posture dynamique. La certitude ne laisse pas place au doute, elle est dans une dualité. La conviction envisage la possibilité du doute et la remise en question, elle est dans la multiplicité. Quelqu'un qui a des certitudes a du mal à changer d'idée, car il ou elle est certain d'avoir raison. Quelqu'un qui a des convictions est prêt à changer d'idée si on lui démontre qu'un argument différent le ou la fait progresser ou évoluer. On peut donc dire que les certitudes amènent potentiellement à des biais cognitifs, comme le biais de confirmation par exemple qui cherche à valider coûte que coûte nos croyances, comme le biais de projection qui est une tendance à plaquer nos motivations ou nos peurs sur les autres, comme le biais de disponibilité qui nous pousse à accorder une importance disproportionnée aux informations facilement accessibles dans notre mémoire ou sur Google, ou encore le biais du survivant qui nous amène à tirer des conclusions erronées sur des résultats positifs sans tenir compte des éléments négatifs qui y ont conduit. Les convictions, sensibles au mouvement, ont l'avantage d'ouvrir le champ des possibles par une vision plus holistique. Alors, si vous voulez partir à l'aventure, eh ben c'est le bon moment pour transformer vos certitudes en convictions et de faire évoluer votre système de croyances vers une posture dynamique. Douter pour mieux créer. Douter pour mieux créer, c'est embrasser l'incertitude. Voici quelques bullet points. Douter, ça implique de remettre en question nos certitudes et nos convictions établies. En remettant en question ce que nous croyons savoir, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées pour stimuler notre créativité. L'incertitude, c'est l'inconnu, et embrasser l'incertitude, c'est se tenir prêt à fouler les territoires créatifs inexplorés pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et à expérimenter de nouveaux concepts. Douter, ça peut être aussi un acte de courage créatif, car ça implique de prendre des risques, de nouvelles habitudes, et de faire preuve de vulnérabilité en exposant nos idées au jugement des autres. Le doute peut être enfin un catalyseur de développement personnel.
Oh, le gros mot.
En confrontant nos certitudes et nos vieilles habitudes, on se pousse à apprendre et grandir en tant que créateur et créatrice. Alors pour faire un beau French kiss à l'incertitude, eh bien je vous propose d'ouvrir la boîte à outils et de déconstruire notre système de croyances à l'aide de 3 tournevis créatifs. Tournevis numéro 1, la connaissance de soi. La connaissance de soi est un voyage intérieur, vieux comme le monde, ou presque.
Connais-toi toi-même.
C'était d'ailleurs la devise, popularisée par Socrate, encore lui, inscrite au frontispice du temple de Delphes, un sanctuaire sacré de la Grèce antique, où œuvrait la Pythie, une prêtresse considérée comme l'intermédiaire entre les dieux et les humains, chargée de délivrer les oracles. Cette devise sonnait comme un appel à réfléchir sur ses propres limitations. S'il est commun de s'en remettre à une force supérieure, qu'on l'appelle divinité, l'univers, ou encore la fatalité ou le destin, il est en revanche beaucoup plus compliqué de croire en soi, parce que ça demande d'aller chatouiller nos émotions. Vous savez, ces sensations pas faciles à contrôler, qu'on planque la plupart du temps sous le tapis. La connaissance de soi est un processus laborieux, qui implique d'explorer justement nos propres caractéristiques cognitives, comportementales et émotionnelles. Elle vient également titiller notre système de croyances en touchant à notre échelle de valeur, à nos forces et à nos faiblesses, à nos motivations profondes, à nos habitudes, à nos pensées même. Pour améliorer la connaissance de soi, on peut, au choix, tenir un journal de bord personnel qui permet de poser nos pensées et nos émotions, sans oublier évidemment celles qui procurent de la joie. pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire être présent et conscient dans nos pensées, dans le moment présent, sans jugement, ça peut être fait via la méditation. Solliciter des retours d'informations en questionnant honnêtement les proches, les pères ou les mentors qui pourront nous offrir une perspective précieuse sur ce que nous dégageons. Prendre de nouvelles habitudes pour améliorer notre fonctionnement personnel ou notre santé mentale et physique. Utiliser des outils d'évaluation personnelle comme les tests MBTI ou Gallup par exemple, qu'il faut surtout pas prendre comme des vérités absolues évidemment, mais plutôt comme des portes d'entrée vers une exploration plus poussée à venir. Suivre enfin un accompagnement pour travailler sur nos spécificités avec un ou une professionnelle du développement personnel qui aura le recul et l'expérience nécessaires pour nous guider sur un bout du chemin. Pick your poison. Gardez à l'esprit que cette exploration dure tout au long de notre voyage sur le chemin de la créativité et qu'il n'y a pas de bon moment pour la commencer. C'est faire le premier pas qui compte à votre rythme. Le tournevis numéro 2, la vision et la mission. Ce tournevis va vous permettre de définir avec clarté votre intention de créateur ou de créatrice et de vous faire comprendre. La vision, c'est le monde dans lequel vous aimeriez vivre et vers lequel vous voulez créer. C'est la big picture. Elle est potentiellement inatteignable, mais c'est pas bien grave puisque c'est pas son but. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à tendre vers. Un peu comme la flèche d'un arc serait le prolongement de votre pensée. C'est par la répétition du geste qu'on parvient à toucher plus facilement la cible. Définir la vision, c'est une étape essentielle et nécessaire pour décider et trouver ce pourquoi vous créez. Vous possédez un heart set, un état de cœur, et des capacités uniques qu'il faut amplifier et utiliser au service de votre vision. La mission, c'est la manière unique et singulière dont vous vous positionnez et passez à l'action pour aider votre vision à se réaliser. C'est votre raison d'être à l'instant T, ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain pour contribuer à votre vision du monde. Elle n'a pas besoin d'être définitive, ni à très long terme. D'ailleurs, elle se travaille, elle s'affine, elle se découvre. Et si vous êtes perdu, elle est parfois tout simplement la moins brumeuse de vos options. Imaginez que votre vision, qui est une certaine vision du monde, que vous partagez peut-être en partie avec d'autres personnes, votre tribu potentielle, cette vision du monde est un cercle spacieux. Votre mission est un point distinct dans ce cercle spacieux. D'autres points peuvent y coexister d'ailleurs, ce sont les missions des membres de votre tribu. C'est de votre vision et de votre mission que dépendent ensuite vos objectifs, votre stratégie et vos tactiques. Elles permettent de clarifier vos convictions, les conscientiser et de faire évoluer votre système dans le bon sens. C'est aider la personne que vous avez été jusque-là. Imaginez un monde où la vie de chaque individu est pleinement vécue grâce aux contributions apportées par chacun, chacune, afin d'élever les autres. Tournevis numéro 3, l'alignement. Comment réussir à être 100% aligné dans notre quête créative? C'est évident que ça sonne comme une injonction. Alors, on va prendre le problème par l'autre bout. C'est sûrement plus facile de repérer quand on n'est pas aligné. Le manque d'alignement vient toujours d'une même racine. Il y a des endroits tout au long du chemin où on n'ose pas sauter le pas et y aller. Il ne faut pas confondre manque d'alignement et manque de certitude. Ne pas savoir, merci monsieur Socrate, ne signifie pas ne pas être aligné. C'est au fond bien normal de naviguer dans l'incertitude. Mais c'est pas normal de sentir qu'il y a un doute à lever et de ne pas passer à l'action. C'est justement à cet endroit qu'il faut déplacer le curseur et se réaligner. Pour répondre à tous ces questionnements, j'ai demandé à Myriam Multinier de me donner son sentiment sur la notion de certitude et d'alignement, un sujet qui la passionne sincèrement. Depuis presque 20 ans, Myriam accompagne des dirigeants et des dirigeantes qui ressentent le besoin de se connecter à leurs valeurs. Elle se définit d'ailleurs comme une sparring partner à l'écoute de l'autre et entend permettre à chacun chacune de rédiger sa propre notice. Ce que j'adore chez Myriam, c'est qu'elle sait prendre soin de ses interlocuteurs sans tourner autour du pot. J'ai eu l'occasion de monter sur le ring avec elle, c'est une métaphore, et ça a été un vrai game changer dans ma façon d'envisager la suite de mon voyage. Voici ma discussion avec Myriam Multinier. Et voilà, je suis avec Myriam Multinier. Coucou Myriam.
Coucou Laurent.
Je te remercie de me rejoindre dans l'aventure du boxon créatif.
Avec joie.
Et j'avoue, en fait, c'est la première fois que je lis d'une interview tout seul.
Ah, grande première. Bah, écoute, je suis contente de l'inaugurer avec toi.
Ah bah, c'est un grand plaisir. Moi, j'ai l'impression de partir dans le cosmos avec toi, toi qui aimes bien rester les pieds sur terre. Et moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'idée du voyage. Et parfois, dans ce baluchon, donc il y a des ingrédients qui sont très importants pour nous aider à accomplir le voyage, mais il y a aussi ces fameuses certitudes qui sont parfois, à mon sens, des biais qui vont peut-être nous amener à nous tromper, peut-être à nous leurrer sur le voyage qu'on va faire, et peut-être nous empêcher de rester aware, de rester éclairé sur ce qui pourrait nous arriver. Toi, pour toi, Myriam, qu'est-ce que les certitudes? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as eu? Et comment tu vis avec ça aujourd'hui?
Ah, des certitudes, bien sûr que j'en ai eu, et j'espère que j'en aurai d'autres, parce que je pense que c'est important, parce que c'est un peu pour moi comme des paliers sur lesquels il est bon parfois de se poser. En revanche, ne vivre qu'avec ces certitudes, comme tu le dis très justement, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui bug. D'abord parce que tout est mouvement, nous sommes mouvement, nos pensées sont mouvement, nos croyances peuvent être mouvement, nos peurs peuvent aussi être mouvement, nos connaissances sont en mouvement perpétuel, et donc comment imaginer que nos certitudes ne soient pas en mouvement, alors même que tout ce qui les constitue est en mouvement. Donc voilà, moi, mon premier socle. En revanche, d'avoir des certitudes, alors le mot certitude, il est évidemment chargé, mais j'aime bien son côté positif qui est une conviction. Voilà. Donc la certitude, c'est quand ça te bloque, et la conviction, c'est quand ça te pousse. Voilà, un peu comment je serais tentée de répondre à ta question.
Ouais, c'est joliment dit. j'aime beaucoup l'angle. Justement, bah, ce côté monolithique des certitudes, qui peut être justement pluriel grâce aux convictions, est-ce que quelque part, ça nous oblige pas à douter, à mettre en question? Est-ce que les convictions, quelque part, c'est pas justement des certitudes dont on a douté?
Alors, ça peut être ça. Moi, je dirais que en fait, une conviction, c'est quelque chose qui t'apporte de la joie. Qui t'apporte de la joie parce qu'elle te permet d'être en phase avec qui tu es au moment où tu les exerces, qui te permet de pouvoir te positionner dans une idée, dans une conversation, dans une contradiction, et elle permet aussi de te rendre vivant dans ce que tu es. Donc je pense que la conviction te forge. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la conviction, encore une fois, n'évolue pas. Elle non plus. Je pense qu'une conviction peut s'enrichir. Et j'allais dire, une conviction qui est enrichie de toi de la façon la plus juste, c'est ce que j'appellerais une valeur. Voilà. Donc, tu vois, on passe de certitude à conviction, hein, c'est-à-dire qu'on fait rentrer quelque chose peut-être de plus doux et de plus mouvant. Et puis, lorsque tu l'enriches comme étant quelque chose qui t'apporte de la joie, et une forme de que moi je qualifie d'alignement, en tout cas de justesse, je pourrais l'appeler valeur. Voilà. Mais tout le chemin pour passer de la certitude à la valeur est un long chemin, un chemin qui est bousculé régulièrement et qu'il est important de questionner et de bousculer régulièrement.
T'appellerais ce cheminement une transformation ?
Alors oui, tu peux appeler ça une transformation, mais ce qui m'embête dans le mot transformation, c'est que, en tout cas en France, j'ai l'impression qu'il fait un peu peur. Donc moi, j'aime bien les mots qui sont un peu plus doux. Tu vois, je dirais plutôt évolution permanente, mouvement, chemin vers soi. Voilà. Mais bien évidemment que nous sommes des êtres, depuis que nous arrivons sur Terre, mais même avant. Regarde dans le ventre de notre mère à quel point nous nous transformons tous les jours. Donc, nous sommes des êtres de transformation. Donc, oui, tu peux appeler ça transformation. Nous sommes des êtres de transformation. Et je pense que si tout à chacun, nous sommes OK avec ça, et que ça peut même devenir une conviction, qui est que nous sommes des êtres de transformation, alors tout est possible. Parce que c'est beaucoup moins anxiogène, c'est beaucoup moins source de stress, c'est beaucoup moins source de peur.
Ah oui, tu parles de côté anxiogène. Je trouve que le monde dans lequel on vit actuellement, j'ai l'impression qu'il... Alors, c'est aussi moi qui prend de l'âge, évidemment. Je vois les choses différemment qu'à 20 ans, c'est logique. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une accélération de plein de choses. Que ça soit sur le plan technologique, que ça soit sur le plan géopolitique, que ça soit sur le plan de finalement même du développement personnel. Hein, on s'en rend compte que de plus en plus de gens s'y sont essayés. Et nous, c'est un sujet qu'on connaît bien tous les deux.
Absolument.
Finalement, ce côté d'accélération, j'ai l'impression qu'il demande justement d'être vraiment dans un mouvement où on est dans l'adaptation. Mais ça commence à devenir une adaptation qui est constante. C'est limite presque tout le temps. Et on peut J'ai l'impression presque s'étouffer de cette vitesse en fait de l'évolution.
Ah oui, moi je pense que tu as raison. Hein. Pour moi, le pendant de cette transformation permanente, de cette adaptation continuelle, peut avoir des effets terribles sur nos équilibres. C'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable que le plus tôt possible, on puisse aider nos jeunes et puis nous, en tant qu'adultes, faire ce chemin pour pouvoir être au plus clair avec qui nous sommes. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, de toi à moi, on arrivait très bien à s'en sortir avec le cadre que la société nous proposait parce que le cadre était défini. On savait globalement où on allait. Les entreprises construisaient des plans à 5 ou 10 ans. Donc, on avait une visibilité assez cadrée, assez claire, sans trop de surprises et donc sans trop, j'allais dire, d'anxiété de cet inconnu, de ce vide. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un vide sidéral, alors très excitant parce qu'on voit bien que les choses changent effectivement continuellement. Donc, il y a l'attractivité de la nouveauté, il y a la créativité, tout ça ouais, qui sont des éléments effectivement essentiels pour nous rendre aussi vivants et parfois même joyeux. En revanche, je peux comprendre, parce que moi-même ça m'arrive aussi de le vivre parfois, si notre rôle ou notre statut aujourd'hui serait de nous adapter en permanence à ce que notamment la technologie nous apporte de nouveau, mais on deviendrait dingue. En fait, la question, c'est pas de s'adapter en permanence à ces technologies, c'est de s'adapter en étant très au fait de qui nous sommes pour que nous puissions même mettre nous-mêmes, pardon, nos propres limites, notre propre cadre. Nous sommes face à un immense vide qui est fait de plein de choses qui vont se remplir, puisque la nature a horreur du vide. Il y aura des choses formidables et il y aura des choses terribles. Et on le voit bien déjà aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a jamais été aussi essentiel que de faire ce chemin vers soi, que d'essayer de comprendre ce qui nous anime aujourd'hui, en sachant que c'est pas forcément la même chose que ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans, et ça ne sera pas la même chose non plus dans 10 ou 20 ans, mais de pouvoir exercer notre façon de voir, de nous questionner, de vivre, d'interagir, en étant plus au clair, plus éclairé sur qui nous sommes.
Ouais, connais-toi toi-même. Mais alors comment on fait? Comment on y parvient? Quels sont les moyens? Quelles sont les actions qu'on peut faire pour mieux se connaître?
Alors déjà, je pense que ce qui est très important, c'est d'accepter que faire ce chemin pour mieux se connaître, c'est un long chemin. Et qu'il ne faut pas attendre des résultats une entreprise pourrait te le demander en te fixant un objectif, en te disant « t'as 2 mois pour l'atteindre ». Ça n'est pas possible. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui peut être doux, mais c'est un chemin aussi qui peut être difficile. Pourquoi ? Parce que faire ce chemin vers soi, c'est d'abord s'écouter. Et apprendre à s'écouter, c'est un chemin pour le coup qu'il faut réapprendre. Un enfant, lorsqu'il arrive sur Terre, il s'écoute puisque quand il a faim, il hurle. Quand il a mal, il hurle. Donc, il a cette capacité à s'écouter et à transmettre le message extrêmement rapidement. Et puis, plus le temps passe, plus nos éducations, notre vie sociale nous oblige à rentrer dans des cases, à épouser des codes qui nous éloignent de cette écoute, puisque on épouse les codes de l'école, on épouse les codes de la vie sociale, de notre famille.
Ça paraît très mauvais, mais en réalité, c'est ce qui constitue aussi le fonctionnement d'une société, le fait aussi de
absolument,
de se conformer.
Absolument. Donc, ce sont des passages qui sont indispensables, mais pour autant, ça ne veut pas dire que il ne faut pas à un moment donné se poser non seulement la question, mais cheminer vers soi. Donc, cheminer vers soi suppose, comme je te le disais, de s'écouter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu vis quelque chose qui ne te convient pas bien et que tu finis quand même par le vivre parce que tu culpabilises, parce que tu te dis que si jamais tu le fais pas, bah ton image va être abîmée, parce que tu vas faire du mal à l'autre, parce que tu t'éloignes.
Parce que tu t'habitues aussi.
Parce que tu t'habitues, alors ça j'en parle même pas, parce qu'effectivement la routine et l'habitude, en fait, elles nous éloignent terriblement souvent de nous, puisqu'en fait on fait les choses par habitude et non pas en s'écoutant. Et ça, c'est le début pour moi du chaos, mais du chaos, du mauvais chaos. Mmh. Voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir repérer tous ces signaux que la vie nous envoie et que l'on vit, aussi bien dans les joies que dans les les choses qui grincent un peu, pour qu'on essaye de comprendre un peu plus ce qui nous anime, aussi bien dans ce qui aujourd'hui pourrait nous attirer ou nous attire, et en revanche ce qui nous déplaît. Et puis après, la question, c'est comment j'arrive à le dire pour que ce qui était un obstacle à ce changement ou à cette écoute devienne possible pour l'autre. Hein. Donc je le fais maintenant, même si effectivement je me dis je vais peut-être culpabiliser parce que voilà, je vais faire du mal à tel ou tel. C'est comment je peux ne pas faire du mal à un tel en lui disant en fait ce que moi je ressens. Voilà. Donc c'est un chemin. C'est un dialogue avec soi, c'est une écoute, c'est du temps. Alors moi j'aime bien utiliser l'écrit, hein, comme tu le sais. Donc moi j'ai mon petit carnet dans lequel je note régulièrement. Alors non pas ce qui va pas, parce que ce qui va pas, le cerveau il est très bien foutu, il le retient. Hein.
Il le retient.
Voilà, ouais. Très très bien, il le met souvent au-dessus de la pile. Mais tout ce qui m'anime et qui me rend heureuse, joyeuse, ces petits instants de chaque journée qui sont en fait très nombreux et qui permettent de mieux comprendre en fait qui nous sommes et de quoi nous sommes faits. Voilà.
Et ça, tu l'expérimentes avec les dirigeants, les dirigeantes que tu accompagnes. Comment ils reçoivent en fait cette, finalement cet exercice et qu'est-ce qu'ils en font ?
Alors c'est marrant d'ailleurs parce que il y a effectivement des réactions extrêmement différentes. Ils sont souvent très excités et je dis bien excités parce qu'il y a la curiosité de faire ce chemin vers eux quand je les rencontre pour leur proposer effectivement cette approche, parce que je bouscule pas mal et qu'ils sentent bien qu'effectivement ils vont ouvrir cette porte avec quelqu'un donc plus en sécurité. Et puis souvent la première séance elle est un peu déstabilisante parce que moi je n'ai pas de cadre. En fait, je n'ai pas de cadre au sens où ils l'entendent. Ça veut dire que contrairement à pas mal de personnes qui peuvent effectivement accompagner aussi des dirigeants qui ont un cas, c'est-à-dire une méthode qui est la même méthode qu'ils appliquent à X, Y ou Z, moi, ma méthode, je la construis au fil de l'eau en écoutant, en fait, mon interlocuteur, mon interlocutrice. Donc, ça veut dire que une séance, je ne la prépare jamais à l'avance parce que je ne sais pas de quoi elle va être faite. Je reçois ce qui vient au moment où ça vient. Et je pense que c'est aussi un cadeau que les dirigeants se font en s'offrant ce temps pour eux, qui est effectivement d'amener son cerveau, sa pensée et son cœur à s'ouvrir différemment et à ce qui vient au moment où on se questionne. Et ça donne des choses absolument incroyables. Hein, des dirigeants qui, pour le coup, étaient souvent... c'était construit autour de certitudes, ou en tout cas des convictions ou des modes opératoires qui étaient devenus des certitudes, voire des routines, et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, et voire même les font souffrir. Donc c'est pour ça que je les rencontre et que je travaille avec eux, c'est justement pour essayer de faire autrement.
D'autant que ces certitudes-là, elles sont totalement ancrées avec leur vécu et leur vision du monde.
Absolument. Et que ça a été source de succès. Donc, comment arriver à accepter...
Oui, c'est ça, le biais du succès. Hein? Ouais.
Donc, c'est comment arriver à accepter de s'écouter en voyant bien que leur quotidien n'est plus aussi chouette qu'il l'a été. Pour autant, les résultats sont là. Mais ils sentent bien qu'eux-mêmes ne sont plus à leur juste place. Voilà. Alors, ils ne l'expriment pas forcément aussi clairement que ça. Mais c'est des petits grains de sable qui viennent en fait bloquer les portes, qui font que la porte de soi n'arrive pas à s'ouvrir. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce questionnement, le fait d'aller titiller, le fait d'aller challenger, le fait de regarder comment faire autrement, de sortir du cercle de ses habitudes pour faire un pas de côté et prendre un angle différent à l'aide effectivement de quelqu'un, peut-être une voix et une accélération assez forte pour faire ce chemin, en tout cas pour ouvrir ce chemin vers soi.
Quand on est indépendant, moi j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige soi-même pour le coup, et que du coup on a l'ensemble des problématiques. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'a plus la responsabilité d'autres personnes, mais on a quand même une énorme responsabilité, c'est envers soi-même. Et pour moi, il y a un truc qui est vachement important, c'est de sortir du jugement. C'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis très longtemps, de m'accepter avec justement mes faiblesses, mais aussi mes capacités, parce que des fois on les réfrène pour X raisons, ce qui est toujours un peu idiot, et puis finalement les faiblesses on n'ose pas trop en parler. Et le fait de travailler là-dessus, et c'est aussi passé par le travail aux arts martiaux où on prend des murs
bien sûr
vite, finalement ce chemin vers l'humilité, je trouve que c'est vraiment un très très bon ingrédient justement pour s'adapter sans suffoquer.
Alors oui, c'est vrai.
J'ai dit plein de choses là en une.
Ouais, t'as dit beaucoup de choses. Pour revenir en fait au statut d'indépendant dont tu parles, qui est effectivement source de beaucoup de plaisir, de liberté, en tout cas d'une liberté qui nous permet effectivement de pouvoir organiser beaucoup de choses et de penser un peu comme on le souhaite, en fait, est souvent très contraignant parce que, et nous sommes notre propre contrainte, hein, en n'osant pas, en pensant à la place du client, en se disant que si on dit non à une demande d'un client, on va le perdre. En fait, on a plein de certitudes, pour le coup, qui s'activent, qui sont souvent totalement fausses parce que non exercées. Pourquoi est-ce que d'abord tout le monde fonctionnera de la même façon? On voit bien dans la vie quotidienne que nous sommes tous différents. Donc pourquoi tout d'un coup considérer que si on dit non à un client, il va nous quitter? Honnêtement, si le client il vous quitte, c'est qu'il a décidé de vous quitter. Sauf à ce que le non soit un non qui est en fait une façon qui vous appartient de dire que vous n'avez plus envie de travailler avec lui. Donc là, c'est totalement différent et vous êtes comment dans ces cas-là totalement pleinement maître de votre décision. De pouvoir proposer une alternative qui n'est pas effectivement le cadre dans lequel le client, par exemple, vous a projeté. Ben, évidemment, le client, lui, il a son cadre à lui, mais c'est pas parce qu'il a son cadre à lui qu'il ne veut pas en sortir. C'est sa vision à lui à ce moment-là. Mais s'il fait appel à vous avec ce regard extérieur, cette créativité extérieure, c'est qu'il a aussi besoin d'élargir son cercle ou en tout cas d'avoir peut-être un pas de côté. Donc, pourquoi ne pas tenter? Si vous tentez, le seul risque que vous prenez, c'est qu'on vous dise « oui ». Voilà. Et si on vous dit non, bah c'est pas grave, vous continuez. Donc en fait, ce que je sais pas si c'est de l'humilité, je sais pas si ça relève de l'humilité. Je pense simplement que c'est plutôt de l'audace et que l'indépendant, pour moi, ou en tout cas le statut d'indépendant, n'est compatible que si on est prêt à actionner cette audace. Ça ne veut pas dire de monter sur les toits. Hein. Ça veut pas dire
parce que l'audace, ça peut faire peur aussi. On peut parler juste d'oser faire quelque chose. Quoi.
Alors, sauf que le nom de oser, c'est audace. Alors évidemment, il a l'impression qu'il nous fait monter d'un cran. Non, c'est tout simplement oser s'écouter. Donc oser s'écouter, c'est j'ai envie de lui dire non parce que la façon dont il souhaite que je travaille ne me convient pas pleinement. Je pousse le bouchon un peu plus loin, ça veut dire que si ça ne me convient pas pleinement, je ne vais pas réaliser pleinement ce que je suis en droit de lui fournir. Donc, je suis légitimement à ma juste place que de lui dire que je préférerais le faire comme ça parce que ça va m'amener à un résultat qui va être au plus près de ce qu'il souhaite. Et honnêtement, dans 90% des cas, le client ou la cliente va vous entendre. Donc, l'idée, c'est plus, encore une fois, de s'écouter dans ce qui arrive plutôt que d'écouter ses peurs, ses jugements, ses freins. S'écouter et oser, c'est grandir vers soi et c'est permettre au client aussi de grandir.
Dans ce que tu as dit, il y a un truc intéressant qui me fait penser justement au fait de regarder la réalité en face, comme elle est, avec les faits. Parce que bah évidemment moi dans cet épisode je parle beaucoup des biais cognitifs notamment hein, qui nous amènent justement à ces certitudes et de regarder la réalité comme elle est, c'est un vrai exercice et on peut finalement détacher les briques de certitudes pour garder finalement les faits, faire des choix par rapport à ça et ne pas rester sur des choses toutes faites un petit peu robotiques qu'on aurait pu mettre en place.
Alors ça, je pense que tu as totalement raison. Après, la difficulté, c'est comment arriver à mettre en pratique ce schéma qui nous a construit pendant des années dans une période où on se sent fragilisé parce que démarrer en tant qu'indépendant, tant qu'on n'a pas réussi à avoir, entre guillemets, un rythme qui vous permet de bien en vivre, c'est compliqué hein, de mettre beaucoup de changements et beaucoup de...
Et parce que ça demande de les expérimenter.
Exactement, voilà. Et que démarrer, ça veut dire souvent la prudence. Hein, oui. Voilà. Et moi, je n'invite pas à l'imprudence. Je dis simplement que dans un cas comme ça, pour pouvoir y arriver, moi, ce que je suggère, c'est de ne jamais se précipiter dans la réponse que l'on apporte. c'est d'avoir cette espèce de sas, et ça rejoint un peu ce que tu dis, quand tu dis c'est important de se mettre effectivement dans ce qui est au moment où, la réponse qui va venir immédiatement n'est pas forcément la bonne, parce que ça va être souvent celle du jugement, celle de la peur, celle de la croyance, celle de l'envie de satisfaire l'autre, hein, et puis on va s'oublier un peu. Pour autant, je pense que pour pouvoir effectivement s'écouter pleinement, c'est pas mal de se prendre un petit sas qui peut être un quart d'heure, qui peut être une journée, d'un temps de pause, d'un sas, hein, où vous allez digérer en fait cette information, cette demande, ce besoin exprimé par l'autre, pour pouvoir voir comment vous pouvez le digérer et revenir vers l'autre avec votre part à vous, c'est-à-dire votre position à vous, et la façon dont vous allez pouvoir le dire au mieux auprès de ce client ou de cette cliente. Voilà. Et ça, c'est aussi mon travail auprès de mes dirigeants, c'est que au-delà de mettre en œuvre le comment, c'est comment je vais le dire à l'autre, parce que l'autre ne va pas forcément le comprendre parce qu'il s'attend à ce que vous lui disiez oui. Donc, c'est comment prendre en compte la personne que vous avez en face de vous pour lui apporter une réponse qui va être entendable par lui et qui va être en fait le fond de ce que vous souhaitez. Voilà. Et qui aura du sens évidemment pour votre client, votre cliente.
Et ça peut être le terreau finalement d'un respect mutuel aussi, le fait de pas se précipiter, parce que quelque part on montre pas une faille, quoi. C'est-à-dire qu'on montre une fermeté, mais en même temps une fermeté douce, puisqu'en fait on prend le temps de répondre correctement finalement à son interlocuteur ou son interlocutrice.
C'est un respect que l'on s'accorde, et que parce que l'on s'accorde, qu'on accorde aussi à l'autre. Et que cette notion de respect, pour moi, est essentielle aujourd'hui, parce qu'on voit bien que cette accélération a terriblement bousculé et abîmé la relation humaine, la relation inter-individuelle. On ne prend plus le temps de s'accorder du temps et d'accorder du temps à l'autre. Or, on voit bien que la magie, notamment dans les métiers d'indépendants, hein, c'est très clair, c'est que la magie de la relation à l'autre contribue très largement à votre chiffre d'affaires et au développement. Il y a votre talent, mais il y a la magie de la relation. Et moi, c'est cette relation-là à soi et aux autres sur laquelle je me pose particulièrement, et j'incite mes clients et mes clientes à travailler. Voilà. Et c'est que du bon. C'est que du bon.
Bah oui, je m'en rends compte, hein, au fur et à mesure des années, je change mon fusil d'épaule, justement, je troque la précipitation, par l'écoute et l'observation. Et, voilà. Et ça aide justement à bien regarder les faits et à pas se tromper, à ce que ça soit pas des leurres. Il y a Kant qui disait un truc intéressant. Alors c'est des grands mots, hein, évidemment, mais on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Je trouve intéressant le terme supporter. Le terme incertitude est rigolo parce que moi je parle beaucoup de certitudes.
Ouais, ouais.
C'est les incertitudes, c'est-à-dire quand on est face finalement à l'inconnu, face à des nouveautés, à des changements, justement à des transformations. Et là, on n'y était pas préparé, quoi. On n'y était pas préparé du tout. Et cette forme d'intelligence, moi je dirais presque, enfin j'ai plutôt paraphrasé Jean-Claude Van Damme, mais je trouve que son awareness, le fait de rester ouvert, d'avoir l'esprit ouvert aux choses, peut remplacer le mot intelligence ici.
Oui, mais là c'est pareil, je pense que c'est des injonctions qui peuvent être perturbantes, parce que déclarer ou s'entendre dire soit ouvert ou soit ouverte, ça peut être terrible pour quelqu'un qui n'a pas encore fait ce chemin. En fait, faut goûter les bienfaits de cette ouverture pour mesurer à quel point c'est une voie qui est bienfaitrice pour soi et pour les autres. Mais on passe forcément par des moments qui sont un peu difficiles, hein, parce que s'ouvrir à l'incertitude, c'est encore une fois s'ouvrir à une forme de vide. Et derrière le vide, il y a souvent la peur, il y a le vertige. Donc c'est pas agréable, voilà. Donc l'idée, c'est pour ça que la notion de et le fait de se faire accompagner par des individus ou des organisations dans ces moments où vous vous sentez un peu fragile, ça peut être non pas un tuteur, parce que je pense que justement l'intérêt de ces accompagnements, c'est de ne pas avoir un tuteur, mais c'est de savoir que vous avez la possibilité de pouvoir interagir en immense confiance avec quelqu'un ou quelques-uns ou quelques-unes qui vont vous permettre de pouvoir garder votre cap, hein, et ne pas abandonner parce que le vertige est trop dur et que voilà, vous avez trop peur, quoi, et que du coup votre corps vous dit non, votre tête plus exactement. Du coup, le corps suit.
Ouais, le corps suit. Ouais. Mm. Le cap, c'est l'alignement.
Alors, le cap, c'est l'alignement. Alors là, c'est pareil, je me suis rendu compte que cette notion d'alignement à laquelle moi je tiens évidemment particulièrement, parce que d'abord, je trouve que ce mot est assez joli, mais parfois, je pense qu'il peut faire peur. Alors, moi, ce que j'aime bien rajouter derrière le mot alignement, c'est cet état assez jouissif et qui, à mon avis, est celui pour lequel nous sommes arrivé sur cette terre, qui consiste en fait à être apaisé parce qu'en cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on partage. Et donc, il est évident que lorsque on chemine vers soi, qu'on a mis de côté un peu ses certitudes pour s'ouvrir vers nos convictions puis nos valeurs et ensuite se mettre en mouvement en cohérence avec tout ça, est source de joie. Source de grand bonheur, et quand on y a goûté, puisque la nature aussi est bien faite, hein, quand on aime le chocolat, bah, on y revient, bah, là c'est un peu pareil. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver en fait à tendre vers ces moments. Alors ça n'est pas évidemment 100% du temps, et heureusement, parce que du coup ce serait très chiant, et qu'on avance aussi parce qu'il y a des accidents, on avance aussi parce qu'on a ses parts d'ombre, on avance aussi parce que on a l'autre qui vient nous perturber. Mais c'est quand même voilà, un état dans lequel j'ai envie de dire on est sur terre pour tendre vers, quoi. Et puis plus on tend vers, plus aussi on permet à notre écosystème humain, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos conjoints, conjointes, de nos amis, aussi de tendre vers ça. Donc c'est super doux, quoi, et très très vertueux.
Et j'ai beaucoup aimé l'image gastronomique, le fait de goûter. Bah ouais, c'est important. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Myriam, aux créateurs et créatrices qui nous écoutent?
Que quand on a choisi de se lancer dans la création, il n'y a pas d'autre voie que de s'écouter. Parce que créer, c'est justement donner une telle part de soi. Comment peut-on donner une telle part de soi si soi-même nous ne savons pas véritablement qui nous sommes? Si soi-même nous n'avons pas exercé ce chemin vers soi pour pouvoir, dans nos créations, quelles qu'elles soient, diffuser ce soi qui fait la différence et qui peut apporter au monde, et à ce monde dans lequel on est, à la fois de la joie, du questionnement, de la beauté, et de l'amour, en fait. Voilà.
C'est génial. Ça fait une super note de conclusion. Je te remercie beaucoup, Myriam. Bon. Et puis, ben, on se reverra bientôt, ouais, évidemment.
Merci, merci, merci. À bientôt.
Voyons. Où en étais-je? Je me demande quel chemin je dois prendre.
Si, comme moi, vous êtes un jour perdu sur le chemin, que vous vous sentez interpellé par votre petite musique intérieure et que vous êtes à la recherche d'un juste alignement, osez écrire à Myriam et dites-lui que vous venez de la part de Sens Créatif. Lorsqu'on quitte la citadelle des certitudes, on entre sur le sentier sinueux des doutes. Ce n'est pas une route confortable, elle est d'ailleurs très mal balisée. Mais rassurez-vous, il s'agit très certainement de la bonne direction. Trust your gut. La créativité, c'est l'art de transformer nos doutes en convictions et en mettant un pied devant l'autre, de les faire évoluer au gré de nos découvertes intérieures. Comme Alice, vous allez goûter à l'absurdité de vos rêves et déambuler au milieu des paradoxes de votre réalité. Mais à la fin, vous prendrez le chemin du retour et retrouverez le réconfort du foyer. Avant de repartir à l'aventure, évidemment.
«
Si vous suivez ce podcast, vous avez sans doute déjà entendu parler de La Quête. La Quête, c'est un concentré de l'esprit sens créatif. Un super bootcamp de 8 semaines pour sortir du lot, construire votre audience et trouver plus de clients pour votre activité. Parce qu'il ne suffit pas de simplement prendre ces outils et de se mettre en action. Il faut faire face chaque jour aux peurs et blocages qui nous ralentissent, aux compétences clés qui manquent à notre arc et aux conflits intérieurs quotidiens qui nous encouragent à une chose, s'arrêter et attendre. La Quête, c'est une aventure d'apprentissage unique dont vous êtes le héros ou l'héroïne et qui risque de vous transformer à tout jamais. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez les infos dans les notes de cet épisode. La prochaine session de La Quête est programmée à l'automne 2024 et vous pouvez déjà vous préinscrire pour ne rien rater. Merci d'avoir écouté Sens Créatif.
Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre.
Oh, permis, moustache, je suis en retard, en retard, en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, hey, monsieur.
En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de... Au revoir, je suis en retard, en retard.
Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi.
Non, 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 quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.